L'Éden de Satan au 58. Les jumeaux au 6, la semence partie 1. Jeudi 17 juillet 2022. Brian Kozurek, pasteur. Jusqu'à présent, dans notre étude sur les jumeaux et le parallélisme des Écritures, nous avons commencé par comprendre des termes tels que jumeaux, préscience, élection et prédestination. Nous avons ensuite examiné la source de la vie ou le géniteur de chaque forme de vie. Et ce matin, nous voulons examiner la semence elle-même. Dans la semence se trouve la vie et la nature, qui descendent de sa source. Frère Branham a commencé l'Éden de Satan en lisant un extrait de Genèse, chapitre 3. L'Éden de Satan souligné 65-08-29 souligné Jeff.inv9. Nuit dimanche souligné paragraphe 5 maintenant. Ce soir, nous voulons prendre dans les Écritures, lire un passage des Écritures tiré de Genèse, chapitre 3, et revenir un peu sur certaines choses dont nous avons déjà parlé dans le passé. Et nous verrons, en repartant, si le Seigneur Jésus aura bien voulu ajouter un peu à ce que nous savions. Je prie qu'il le fasse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a réellement dit, vous ne m'y mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne m'y mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne m'y mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal acquis. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Si ce que le Seigneur ajoute-les, ses bénédictions à la lecture de sa parole. Maintenant, j'aimerais tirer de là mon sujet de ce soir, que j'intitulerai l'Éden de Satan. C'est une petite expression assez percutante. Ça. L'Éden de Satan. C'est un peu dans le même genre que ce que je disais dimanche soir passé. Je crois. Quand je vous ai parlé ici du filtre d'un homme qui réfléchit et du goût d'un homme saint. C'est parfois, avec ces petites expressions choc, on en arrive à quelque chose. Elle nous incite à étudier. Elle vous porte à lire la parole. Et c'est ce que je veux pour toute mon assemblée. L'homme n'y vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, lisez la parole. Étudiez-la. Et étudiez-la avec les yeux de Dieu, afin de donner à votre intelligence la compréhension, savoir comment vivre en ce jour actuel. Si vous voulez entendre un sermon de frère Branham, qui expose ce parallélisme de l'écriture et des jumeaux du début à la fin, écoutez son sermon sur la marque de la bête prêchée en 1958. Pour ceux qui écoutent, vous pouvez cliquer sur ce lien, https://branham.org/n/message/stream/ng=56-07-15. Genèse 1:11 nous dit que chaque semence doit produire selon son espèce ou sa nature. Par conséquent, avant de commencer à examiner la semence, nous devons connaître les deux sources de jumeaux, ceux qui ont la vie Dieu et ceux qui ont la vie Satan. Car après tout, Jésus parle des enfants de Dieu et des enfants du diable. Et Jean soulignait 3:10 par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque n'est mis pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Nous voyons également dans les Écritures d'autres illustrations concernant ces deux semences. L'apôtre Paul les appelle aussi enfants de lumière et enfants du jour, par opposition aux enfants des ténèbres et de la nuit. Et Thessaloniciens souligné 5.5 Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'émissons point de la nuit ni des ténèbres. L'apôtre Jean a également enseigné le parallélisme des Écritures, que nous appelons les jumeaux, et il dit que le principe déterminant estère la vie. Ceux qui pratiquent ce qui estère juste sont de Dieu, mais ceux qui n'émis pratiquent pas ce qui estère juste n'émis sont pas de Dieu. Et Jean soulignait 3.10 Esther, par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque n'émis pratique pas la justice n'estère pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Jésus nous dit que les bonnes semences sont les enfants du royaume de Dieu, mais que les vrais sont les enfants du malin, qui estère Satan. Matthieu 13h38 Le champ s'estère le monde, la bonne semence, ce sont les enfants du royaume, mais les vrais, ce sont les enfants du malin. Dans Luc, Jésus appelle les enfants de Dieu, les enfants de la résurrection et dit que nous n'émis pouvons pas mourir. Luc 20h36 Ils n'émis peuvent pas non plus mourir, car ils sont pareils aux anges, et sont enfants de Dieu, étant les enfants de la résurrection. Et Paul définit encore les enfants de Satan comme les enfants de la femme esclave. Galates 4h31 Sester pourquoi, frère, nous n'émis sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. En Romains 9h26, l'apôtre Paul déclare en outre, 26 Et il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple. Là ils seront appelés les enfants du Dieu vivant. Et dans l'évangile de Luc, Jésus nous appelle les enfants du Très-Haut. Luc 6, 35 Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez les enfants du Très-Haut. Car il estère bon envers les ingrats et envers les méchants. Et les compagnons de l'époux dans Marc 2h19 Jésus leur dit, les compagnons de l'époux, peuvent-ils jeûner pendant que l'époux estère avec eux? Tant que apostrophe ont l'époux avec eux, ils n'émis peuvent pas jeûner. Nous voyons donc que les enfants de Dieu sont appelés par de nombreux titres, et que les enfants du diable sont également connus par de nombreux titres. Mais en apprenant à examiner les attributs et les caractéristiques de tous ceux que nous fréquentons, nous pouvons les reconnaître à leurs fruits, comme Jésus nous a appris à le faire. C'est ainsi que nous apprenons à discerner le juste du méchant. Une fois que l'épouse de Christ arrive à ce stade où elle peut identifier les semences par leurs attributs, elle n'y sera plus trompée. Très souvent les chrétiens se laissent séduire par un homme qui prétend être oint, mais n'oubliez jamais que Jésus a dit que dans les derniers jours il y aurait beaucoup de faux oints qui diraient « Je suis le Christ », ce qui veut dire que je suis oint. Mais il a dit « N'émis les croyez pas ». Matthieu 24, 23 Alors si un homme vous dit « Voici, ici Esther Christ, ou il Esther là, voici loin », où il y a un homme qui a l'onction, mais qu'est-ce que Jésus nous a dit de faire quand nous entendons cela? Il a dit, sourire. N'aimez le croyez pas. 24 Car il s'élèvera de faux Christ, de faux oints et de faux prophètes, de prophètes menteurs, et ils feront de grands signes et des prodiges, à tel point que, s'il était possible, ils tromperaient les élus même. 25 Voici, je vous le dis d'avance. 26 Esther pourquoi si on vous dit, voici, il, loin, Esther dans le désert. N'y allez pas, voici il, loin, Esther dans les chambres secrètes. Et ce terme de chambre secrète signifie entrepôt. Et qu'Esther ce que Jésus nous dit de faire quand ils disent l'onction Esther dans l'entrepôt? Il dit, n'aimez le croyez pas. 27 Car, comme l'éclair vient de l'est et brille jusqu'à l'ouest, ainsi sera aussi la parousia du Fils de l'homme. Ainsi, la parousie sera une présence universelle, non localisée dans un endroit spécifique. Et lorsque nous nous concentrons sur cela, nous n'y serons pas attirés à suivre tel loin ou tel prophète menteur. Ce matin, nous allons commencer notre étude sur la semence, et la différence entre les deux semences, qui constituent les deux natures des jumeaux. Nous avons déjà examiné la source de ces deux semences, et nous vous avons montré la nature de la vie qui réside dans ces deux semences. Dans cette étude, nous commencerons par examiner ce dont Jésus parle à propos de la semence du bien. Jésus parle des semailles de la bonne et de la mauvaise semence dans le même champ, dans une parabole qu'il nous raconte dans Matthieu. Examinons cette parabole concernant les deux vignes ou les deux semences. Comme nous le lisons dans Matthieu 13:24, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est ressemblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » 25. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » 28. Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'ayez mis des racines et en même temps le blé. 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Remarquez que Jésus souligne le fait que deux types de vie ou de semences très différents seront plantés l'un à côté de l'autre dans le même champ. Le champ représente le monde, et le propriétaire du champ sème d'abord, puis son ennemi vient dans son champ et émite ses semailles, mais avec une vie ou une semence différente. Les faits de cette parabole sont les suivants. 1. Il y a un champ où la semence est terre placée. C'est à dire l'église, le réveil, le mouvement de Dieu, etc. 2. Il y a deux personnes qui sèment la semence, ou deux sources qui sèment leur semence, le propriétaire du champ et son ennemi. 3. Il y a deux semences qui sont semées, identifiant deux formes de vie et de nature différentes, le blé et l'ivraie. 4. L'ivraie est une intrusion dans le champ de blé, mais on lui permet de croître à côté du blé jusqu'à la moisson, pour le bien du blé, jusqu'à ce que le blé soit assez mûr pour supporter une séparation. 5. Il doit y avoir une séparation, dans laquelle la séparation produit toujours une guerre. 6. Avec la fausse semence, il faut lier et mettre en botte l'ivraie. 7. L'ivraie est destinée à être brûlée. 8. Le blé est destiné à être recueilli, mais il n'est pas nécessaire de le mettre en gerbe. Ils doivent être placés dans le grenier du propriétaire. Il s'agit donc aussi d'un placement, et le placement des fils, c'est l'adoption. Remarquez que les deux semences sont autorisées à croître côte à côte jusqu'au moment de la récolte. Ensuite, une séparation doit avoir lieu. Il y aurait d'abord un rassemblement de la semence que l'ennemi a semée. L'ivraie commencera à se rassembler en premier. Jésus utilise le mot déo pour décrire ce rassemblement. Ce mot signifie en fait lié en imposant une obligation. Son lien est nécessaire pour contrôler l'assemblée de l'ivraie. En soumettant les gens à des obligations, on retire la prééminence à la parole et on la place sur l'organisation. Nous voyons que l'organisation lie les gens, les empêchant de chercher plus de lumière que celle qui est disponible dans leur église. Cela se fait par le biais de programmes. Si vous regardez toutes les grandes églises et même de nombreux petites églises, Vous verrez que les gens Néhémie se contentent pas de venir écouter le pasteur prêcher les vraies paroles de Dieu, mais qu'au contraire, de nombreux programmes sont mis en place dans ces églises. Plus la congrégation est grande, plus il y aura de programmes pour garder les gens satisfaits. Après avoir lié l'ivraie, Jésus nous dit qu'elle est mise en botte. En utilisant le mot botte, Jésus nous dit qu'il y a une certaine caractéristique concernant le fait de lier l'ivraie. Bien que le mot botte puisse signifier lier, Jésus a utilisé deux mots différents pour décrire le processus qui doit avoir lieu. Il s'agit des mots grecs déo et dom. Matthieu 13h30 laisse y croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il dit que les moissonneurs les lieront en bottes. Il n'a jamais dit en un seul fagot, mais en bottes, au pluriel. Nous voyons donc que le mot botte définit davantage le processus par lequel l'ivraie doit passer avant d'être prête à être brûlée. Elle est d'abord liée, puis mise en botte. L'utilisation du pluriel nous indique qu'il y aurait de nombreux fagots différents, tout comme nous voyons qu'il y a de nombreuses dénominations différentes. Ils sont d'abord rassemblés. Ce rassemblement pourrait suggérer une réunion très informelle, mais en ajoutant le mot botte pour définir plus précisément le processus de liage, Jésus nous montre que la forme, la symétrie et l'objectif seront impliqués dans la manière dont ils seront présentés pour être brûlés. La signification de la forme, l'apparence extérieure clairement définie, qui se distingue des autres. La signification de la symétrie, correspondance de taille, de forme et de disposition des parties situées sur les côtés opposés d'un plan, d'une ligne ou d'un point, régularité de la forme ou de la disposition en termes de parties semblables, réciproques ou correspondantes. Le but, la raison d'être ou l'intention pour laquelle quelque chose existe, est fait ou fabriqué. Or, une botte n'est pas une simple collection de bâtons jetés ensemble pour former un tas sans ordre ni symétrie. Une botte nous suggère que toutes les ivraies de chaque botte seront alignées ensemble et iront toutes dans la même direction. Leur union dans la botte ou leur assemblage en fera un moyen plus efficace pour les brûler toutes. Nous voyons donc que l'organisation Esther le moyen par lequel l'ivraie Esther rassemblée est réunie. L'Église Esther d'abord lia une fausse parole. Puis en s'organisant autour de cette fausse parole, elle rassemble les gens en un moyen plus efficace et plus rentable, par lequel le groupe entier peut être préparé pour la combustion. Nous devrions donc voir clairement que la fausse ligne s'estère l'église organisée. Car s'estère l'organisation qui les unit. Si tel estère le cas, l'un des principaux attributs de la fausse vigne sera sa capacité à s'organiser en nombre et donc, à utiliser des moyens efficaces pour prêcher son faux évangile. Or, une botte Néhémie représente pas une organisation lâche, mais une organisation qui a une structure et une symétrie. Chaque bâton va dans la même direction, et ils sont là pour le même but, et ils doivent se conformer à une certaine norme afin de s'intégrer dans la botte. Voyons maintenant si ce n'est pas exactement l'image dont Jésus lui-même parle à propos des deux semences. Matthieu 13, 36 Puis Jésus renvoya la multitude et entra dans la maison, et ses disciples vinrent à lui disant, « Explique-nous les paraboles de l'ivraie du champ. » 37 Il répondit et leur dit, « Celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme, le Fils de l'homme est le titre d'un prophète. » Jésus est appelé 84 fois Fils de l'homme, ce qui est plus que tout autre titre utilisé pour lui dans les Écritures. Ce titre, Fils de l'homme, désigne un prophète. C'est pourquoi nous voyons qu'un prophète sortira, et qu'il sèmera de la semence. 38 Le champ est le monde, la bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Mais l'ivraie, ce sont les enfants du malin. 39 L'ennemi qui l'a semé Esther le diable. La moisson Esther la fin du monde. Et les moissonneurs sont les anges. Le mot grec agelo. Sester à dire, pasteur ou messager. 40 Comme donc l'ivraie Esther ramassée et brûlée dans le feu. Il en sera ainsi à la fin du monde. 41 Le fils de l'homme enverra ses anges. Le mot grec agelo. Sester à dire, pasteur ou messager. Et ils rassembleront de son royaume toutes les choses qui offensent et ceux qui commettent l'iniquité. 42 Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. Sester la période de la tribulation. Dans les épîtres de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Paul, il est question de deux types d'enfants, les enfants obéissants, qui sont les enfants de Dieu, et les enfants désobéissants, qui sont les enfants de Satan. Remarquez que Néhémie les appelle pas enfants désobéissants, mais plutôt enfants de la désobéissance. En d'autres termes, il ne s'agit pas de ce qu'ils font, mais plutôt de ce qui les a engendrés. Les enfants d'un acte de désobéissance sont des enfants du serpent. Ils sont la semence du serpent. Par contre, nous sommes appelés enfants obéissants. Maintenant, vous devez être capable de faire la différence. Parce que les enfants de la désobéissance sont de la semence du serpent, et donc ils négligeront la parole, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit pour la comprendre. Et par conséquent, Néhémie la comprenant pas, ils courront après les conceptions intellectuelles de l'homme, et prendront la marque de la bête. Dans son sermon La marque de la bête, Frère Branham l'explique très clairement. La marque de la bête souligné 15 juillet 1956 souligné Jeffersonville, Indiana, USA, paragraphe 13 maintenant. Tout l'Ancien Testament, ce sont les types, les ombres. Christ sous forme de l'agneau. Comme Dieu connaissait tout au commencement, il n'y a rien qui a donc été prédit ou qui a été placé dans les Écritures sans que Dieu en ait déjà parlé avant la fondation du monde. Tout le plan de Dieu avait été tracé. Croyez-vous cela? Saint Jean, chapitre 1, verset 7. La Bible dit, donc, ce que cette Bible était, c'est ce qu'a Dieu avant la fondation du monde. L'unique raison pour laquelle elle est écrite ici, Sester que les prophètes recevaient de Dieu, par préscience, le plan prédestiné pour les âges. Un juriste étudie les codes pour avoir toute la connaissance. Il sait comment s'y prendre, afin qu'il puisse mettre cela au profit de son client. Oh, Sester, pareil pour les prophètes, les docteurs. Ils étudient la parole. D'abord, le prophète va auprès de Dieu. Et la parole descend, alors, il a écrit cela dans la Bible. Et alors, c'était le plan préordonné de Dieu que les prophètes voyaient. Et il a écrit cela sous forme des paroles, de sorte que les gens, en suivant, soient avertis des situations et des événements à venir. Voyez? Bon. C'est Esther par inspiration que la parole a été proclamée par Dieu. C'est Esther par inspiration que les prophètes l'ont apportée. Et c'est Esther par inspiration qu'il nous faut la recevoir. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas une chose naturelle. Ce n'est pas une. La pensée charnelle. Écoutez. L'homme, dans son état charnel, Néhémie peut jamais comprendre cela. En aucun cas. C'est impossible. En effet, les choses spirituelles sont de la folie pour un esprit charnel, disent les Écritures et vice-versa. Donc, il nous faut être spirituel. Frère Branham est très précis dans sa paraphrase de l'Écriture. L'apôtre Paul a dit la même chose dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens souligné 2.14. Mais l'homme animal némi reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il némi peut les connaître, parce que c'est ster spirituellement qu'on en juge. 15 L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est-ter lui-même jugé par personne. Pierre nous appelle donc des enfants obéissants, et Pierre souligne 1.14 comme des enfants obéissants. Néhémie, vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Alors que l'apôtre Paul appelle ainsi ceux qui sont nés à la suite d'un acte de désobéissance, car Dieu a dit Néhémie le fera pas, et elle l'a fait quand même, et cette désobéissance a produit une semence du serpent. Éphésiens 2, 1 est vous qui l'a vivifié. Vous étiez morts dans vos transgressions et dans vos péchés, deux dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui maintenant agit dans les enfants de la désobéissance. Éphésiens 5, 6 Qu'aucun homme n'ait vous séduise par de vaines paroles, car à cause de ces choses la colère de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. Colossiens 3, 6 Car c'est-ter pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. Il faut bien comprendre ce que Paul nous dit lorsqu'il parle des enfants de la désobéissance. Il n'a pas dit enfants désobéissants, mais il les a appelés enfants de la désobéissance. En d'autres termes, il s'agit d'enfants qui sont venus au monde par un acte de désobéissance. Ils sont donc le produit de la désobéissance. Et s'ils sont le produit de la désobéissance, ils sont alors la semence de la désobéissance. Nous savons maintenant que la vie de semence, décrite dans cette parabole, concerne des personnes réelles, les enfants de Dieu et les enfants du malin, semés par le diable et l'acte de désobéissance d'Ève. Il s'agit de la semence du serpent, comme Jean nous le dit dans, et Jean souligné 3.12 et Néhémie par ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Si Caïn était le fils d'Adam, Jean n'aurait jamais pu prononcer des paroles aussi dures et critiques à son égard, car Adam était un fils de Dieu. Mais nous savons que Caïn a été conçu par l'acte de désobéissance d'Ève avec le serpent. Docteur, George Oreker Berry dans son livre intitulé L'Ancien Testament interlinéaire hébreu-anglais Genèse Exode montre la traduction linéaire littérale de l'hébreu nashak comme étant le mot séduire. Le serpent m'a séduit et j'ai mangé. D'autres traductions citent en disant, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Que nous choisissions d'utiliser le mot séduire ou tromper, ils ont tous les deux la même signification. La concordance de Strong définit ce mot hébreu comme une racine primitive pour égarer, tromper mentalement ou séduire moralement. Le dictionnaire Webster nous apprend que le mot séduire signifie, persuader d'avoir des rapports sexuels illégaux, en particulier pour la première fois. Vous Néhémie pourrez jamais parvenir à une compréhension complète et claire de la prédestination et de l'élection, tant que vous Néhémie verrez pas les deux semences, la semence de Dieu et la semence de Satan. Paul nous l'explique clairement dans le livre des Romains, au chapitre 9. Il parle ici de Jacob et d'Ésaü, tous deux nés des mêmes parents, et pourtant l'un était un vase d'honneur destiné à l'être, et l'autre un vase de déshonneur également destiné à l'être. Paul nous fait savoir qu'avant même que les enfants Néhémie soient nés, afin que le dessein de l'élection soit accompli, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. La question des jumeaux et des devinés est tellement évidente dans les Écritures, que je n'ai comprends pas comment les gens peuvent être aussi aveugles, au fait que le serpent avait une semence. Dieu lui a dit dans Genèse 3:10 et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu, et je me suis caché. 11 et il dit, qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas manger? 12 Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. 13 Et le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Et la femme dit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. 14 Et le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. Sur ton ventre tu avanceras, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. 15 Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Dieu a donc dit que le serpent avait une descendance. Elle, semence, écrasera ta tête, et toi tu lui écraseras son talon. 16 Et la femme, il dit, je multiplierai grandement ta douleur et ta grossesse. Avec douleur tu enfanteras des enfants, et ton désir sera vers ton mari, et il dominera sur toi. S'il s'agissait d'un fruit comme une pomme, quel est-ce le rapport entre le fait de manger une pomme et le fait de savoir qu'ils étaient nus? Et Dieu a dit qu'il ferait en sorte que la semence du serpent soit en conflit et en guerre avec la semence de la femme. Je sais que les gens pensent que le fruit qui n'était pas censé être touché était une sorte de fruit d'arbre. Mais c'était le fruit de l'utérus. Elle était l'arbre qu'il était interdit de toucher. Dieu voulait qu'Adam et Ève produisent de la semence par la parole. Mais la femme a préféré l'acte sexuel. N'ayez pas peur. C'est Esther moi souligné 29 juin 1962 souligné Santa Maria. California, USA. Paragraphe 92 Il était l'arbre, l'arbre de vie depuis le jardin d'Éden, tandis que la femme était l'arbre de la mort, la perversion. C'est ce qui fait qu'elles se comportent comme elles le font aujourd'hui. Toute la chose est une perversion, en agissant ainsi. C'est vraiment difficile de s'opposer à cela, mais vous devez tenir bon. Il faut que quelqu'un le dise. Certainement. Vous serez beaucoup plus populaire si vous ne disiez pas cela. Mais qui va le dire? Quelqu'un doit dire quelque chose à ce sujet. En effet. Dieu qui? Alors cela doit être. Ils seront alors responsables au jour du jugement. Mais s'ils n'ont pas. S'ils entendent cela et font fi de cela. Ils sont responsables, coupables. Eh bien, si vous entendez cela, conformez-vous-y. L'âge de l'église d'Éphèse souligné 05 décembre 1960 souligné Jeffersonville, Indiana, USA 250 Ils ont dit, nos pères, toi, nous ne te connaissons pas. Nous savons que tu es un démon, dirent-ils. Nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. 251 Mais Jésus leur répondit, et ils sont tous morts. Est-ce exact? Ils sont tous morts. Mais je suis le pain de vie qui vient du ciel d'auprès de Dieu. Si. Un pain de vie. Si un homme mange de ce pain, il n'y mourra jamais. 252 Cet homme nous donnera-t-il son corps à manger? Eh bien. Il est fou. Sans doute. 253 Le pain de vie venait de l'arbre de vie dont il mangeait dans le jardin d'Éden. Il était l'arbre de vie. Maintenant, si l'arbre de vie était une personne, alors l'arbre de la connaissance était aussi une personne. Dites maintenant que le serpent n'avait pas une semence. Si la vie est venue par l'homme, l'amour est venu par la femme. Très bien. Elle était l'arbre de mort. Jéhovah va agir. Deuxième partie soulignée 6 juillet 1962 soulignée Grass Valley, Californie, USA, paragraphe 49 Christ. Cet arbre qui était dans le jardin d'Éden. Il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden. Ces deux arbres y étaient placés pour la reproduction. Et alors quel était l'arbre de la mort si on la touchait? Christ était l'arbre de la vie. Maintenant, la mort vient par la femme. La vie vient par l'homme. 50 a bien. Quand il se tint là, parlant aux Juifs, il dit, je, votre, 51 ils dirent, nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. 52 il dit, et ils sont tous morts. Mais moi, je suis le pain de vie, l'arbre de vie, qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu, afin que celui qui mange de ce pain n'ait mis meure jamais. Questions et réponses sur les Hébreux. Première partie soulignée 25 septembre 1957 soulignée Jeffersonville, Indiana, USA 183. Mais je veux vous demander ceci, en prenant la chose au pied de la lettre. Maintenant, pour vous prouver que l'arbre, c'était elle, chaque femme est un arbre fruitier. Combien savent ça? N'êtes-vous pas le fruit de votre mère? Mais bien sûr. Et au milieu du fruit, ou, au milieu de l'arbre, le fruit qu'elle n'aimait ne devait pas toucher. 184 Si vous remarquez, Jésus n'était-il pas l'arbre de vie? N'a-t-il pas promis, dans Matthieu, ou, dans Jean, chapitre 6, je suis le pain de vie, qui est descendu du ciel, d'auprès de Dieu? Maintenant, remarquez que frère Branham cite à deux reprises ce que Dieu a dit à Adam de Néhémie pas faire. Il a dit, Néhémie touche pas au fruit de cet arbre. Revenons au texte de frère Branham pour cette étude de l'Éden de Satan. Comme nous le lisons dans Genèse 3, 1 le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a réellement dit, vous n'y mangerez pas de tous les arbres du jardin? De la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3 Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous n'y mourriez. 4 Alors le serpent dit à la femme, vous n'y mourrez point? Non. Le mot hébreu utilisé ici qui a été traduit par le mot toucher esternaga et esterne racine primitive, signifiant, proprement, toucher, c'est-à-dire à dire poser la main sur, dans n'importe quel but, euphémisme, coucher avec une femme. Ainsi, les personnes, la semence du serpent se trouve là, dans les Écritures, et elle est si claire, qu'elle est cachée à l'homme charnel, mais révélée aux enfants, à ceux qui sont capables d'apprendre. Même Salomon le mentionne dans les Proverbes, Proverbe 30, 20 elle est le chemin de la femme adultère elle mange et essuie sa bouche, et dit, je n'ai pas commis l'iniquité. Telle est le chemin de la femme adultère elle mange. Il s'agit d'un euphémisme pour désigner le péché qu'elle commet, ce que nous voyons également dans Proverbe 9:17 les eaux dérobées sont douces, et le pain mangé en secret est agréable. C'est dans ce but que l'apôtre Paul parle des deux vignes jumeaux que sont les enfants de la désobéissance dans Romains 9:11, car les enfants n'étaient pas encore nés, et n'avaient fait ni bien ni mal acquis, mais afin que le dessein de Dieu selon l'élection puisse demeurer ferme, non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle. 12 Il lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune. 13 Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Esaü. 14 Paragraphe Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice avec Dieu? À Dieu Néhémie plaise. 15 Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. C'est cela Néhémie vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui montre miséricorde. 17 Car l'Écriture dit à Pharaon, c'est pour ce dessein même que je t'ai suscité, afin que je puisse montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom puisse être proclamé à travers toute la terre. 18 C'est pourquoi il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde, et qui il veut, il endurcit point 1:9, tu me diras alors, pourquoi trouve-t-il encore à redire? Car qui a résisté à sa volonté? 20 Non. Mais, Ô homme, qu'essayes-tu? Toi qui répliques contre Dieu? La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu fait ainsi? 21 Le potier n'a-t-il pas le contrôle sur l'argile? Pour pouvoir d'une même masse faire un vase destiné à l'honneur et un autre déshonneur? 22 Qu'est-ce ceci Dieu? Voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec beaucoup de longanimité les vases de colère, préparés pour la destruction. 23 Et pour qu'il puisse faire connaître les richesses de sa gloire sur les vases de miséricorde, lesquels il a préparés d'avance pour la gloire. Dans sa traduction de la Bible KJV, C. I. Schofield a reconnu la ressemblance très proche de la stature humaine que le serpent édénique posséda en Éden et l'a noté dans ses notes de bas de page sur la malédiction. Si vous remarquez bien, le serpent était une créature droite jusqu'après la malédiction. Dans ses notes de bas de page sur le chapitre 3 de Genèse, il a déclaré, le serpent sous sa forme édénique némi doit pas être considéré comme un reptile qui se tortille. C'est l'effet de la malédiction. Genèse 3h14. La créature qui s'Esther prêtait à Satan était peut-être la plus belle, car elle était la plus subtile des créatures inférieures à l'homme. Des traces de cette beauté subsistent malgré la malédiction. Chaque mouvement du serpent Esther gracieux et de nombreuses espèces sont magnifiquement colorés. C'est Esther dans le serpent que Satan Esther apparut pour la première fois sous la forme d'un ange de lumière. 2 Corinthiens 11h14. Genèse 3, 14 L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, il perd les jambes, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Ceci nous dit que le serpent a une semence, celle-ci t'écrasera la tête, et te lui blessera le talon. 16 Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Pourquoi Dieu maudirait-il la femme enceinte si elle mangeait une pomme? Quel est le rapport entre une pomme et le fait qu'elle soit maudite dans sa conception? La loi de Dieu Néhémie dit-elle pas, vous récolterez ce que vous avez semé? S'il s'agissait d'une pomme ou d'un autre fruit d'un arbre fruitier, elle aurait peut-être été victime d'une intoxication alimentaire ou d'une autre maladie de l'estomac. Mais Dieu lui a dit qu'en conséquence de son acte de désobéissance, elle récolterait la conception d'un enfant. Une autre chose que nous pouvons considérer pour comprendre cette doctrine de la semence du serpent, c'est qu'il y avait deux arbres dans le jardin. Frère Branham dit dans son sermon La Préparation, au paragraphe 17, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres, l'un était la vie, l'autre la connaissance. L'homme quitta l'arbre de vie pour manger de l'arbre de la connaissance. D'accord? Étudions cette pensée un instant. Genèse souligné 1.11 puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 1.2 La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Au verset 11 et 12. Nous voyons la loi de la reproduction. Chaque semence doit produire selon son espèce. Le mot « espèce » dont il est question au verset 12 est un mot hébreu « mille » qui se prononce « minute ». Le mot « mille » désigne l'espèce et se réfère à la nature. Que chaque semence produise selon son espèce ou sa nature. Par conséquent, la loi divine sur la reproduction s'oppose totalement à l'hybridation. En effet, l'hybridation réunit deux espèces aux natures différentes et produit une vie qui n'est pas naturelle. Nous pouvons donc voir que la loi de Dieu sur la reproduction est censée être une loi protectrice, qui préserverait l'espèce ou la nature, qu'il a placée dans la semence. Jusqu'à présent, nous voyons également dans ces deux versets de l'Écriture que Dieu a placé ses semences sous terre à cette époque par sa parole. Et Dieu dit, elles n'y sont pas encore plantées dans la terre, mais l'Écriture dit clairement qu'elles sont sur la terre. Nous savons que l'ennemi peut pas voir la vie, mais seulement ses attributs, tels que la couleur, l'odeur ou d'autres attributs comme la texture, le taux de croissance, etc. La vie est terre donc un esprit. Elle est terre invisible et Néhémie peut être vue que par ses nombreux attributs. Lorsque Dieu a prononcé ces paroles, les semences qu'il a placées en terre étaient encore sous forme d'esprit. Il n'y avait aucune manifestation de ces semences à ce moment-là. Mais la parole de Dieu a tracé le chemin ordonné dans lequel elles devaient se multiplier. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 1.2. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. On pourrait croire que la reproduction a déjà lieu, mais ce n'est pas le cas. Du moins pas au sens visible du terme, car nous verrons plus loin, au verset 14-15, que le soleil n'est pas encore créé, et si la lumière du soleil n'est pas présente, aucune vie n'émit peut se manifester sur la terre. Genèse souligne un point 14. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, 15 et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 16 Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. 1.7. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, 18 pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 19 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. En outre, nous verrons également dans Genèse 2, 1-2 que ces semences doivent être plantées en terre, et qu'une fois plantées en terre, elles pousseront de la terre, comme le prévoit la loi de Dieu au verset 12. Remarquez au verset 12 que la terre doit produire. Cela signifie qu'ils doivent sortir de la terre, mais à ce stade, les semences sont seulement sur la terre. Elles n'ont pas encore été plantées. Mais nous voyons au verset 12 l'ordre dans lequel ils doivent sortir. Nous voyons donc ce qui suit. Numéro 1, dans Genèse 1-11. Nous voyons la parole parler, le logo de Dieu, sortir et produire des semences. Numéro 2, ces semences, logo, sont placées sur la terre. Numéro 3, étant sous forme d'esprit, ces semences attendent d'être plantées, ce que Dieu a dû faire en les matérialisant afin d'apporter une manifestation sur la terre. Voici donc l'ordre dans lequel elles doivent se manifester. Ensuite, si nous lisons attentivement le chapitre 1, nous voyons tous les animaux et toutes les créatures de la mer être appelées à l'existence et enfin, l'homme. Genèse 1-20 Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. 21 Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. 22 Dieu les bénit, en disant, soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. 23 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. 24 Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. 25 Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 26 Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. 29 Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui estère à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. 30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Si nous poursuivons la lecture du chapitre 2, nous constaterons qu'il ne s'agit pas d'un autre récit de la création, mais d'une continuation du même récit de la création. Dans le premier chapitre, nous voyons la parole de Dieu s'exprimer et donner naissance à des semences esprits. Mais au chapitre 2, nous voyons Dieu revêtir ces êtres spirituels de la poussière de la terre. Genèse 2, 1, 1 Ainsi les cieux et la terre furent achevés, et toute leur cohorte. 2 Et au septième jour Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour, de toute son œuvre qu'il avait faite. 3 Et Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia, parce qu'en ce jour il s'était reposé de toute son œuvre, laquelle Dieu avait créée et faite. 4 Ce sont ici les générations des cieux et de la terre. Remarquez que le mot génération est utilisé. Il s'agit d'un mot hébreu, toulda, prononcé touledav, qui signifie la procédure, le compte-rendu ou les résultats de la création, quand ils furent créés, lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et les cieux. 5 Et toute plante des champs avant qu'elle fût sur la terre, et tout l'herbage des champs avant qu'il poussât, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Je voudrais que vous remarquiez qu'il n'est nous est donné qu'un compte-rendu de la création jusqu'à ce point. En tant que parole de vie, la vie spirituelle de chaque semence et de chaque animal. Nous savons que c'est vrai, parce qu'il nous est dit que ce récit de la procédure est avant qu'elle fût sur la terre. 5 Et toute plante des champs avant qu'elle fût sur la terre, et tout l'herbage des champs avant qu'il poussât. 6 Mais une brume montait de la terre, et arrosait toute la surface du sol. 7 Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Au chapitre 1:26-27, nous voyons que Dieu avait déjà créé l'homme à son image. Remarquez que jusqu'à présent, Dieu avait créé l'homme à son image. Et nous savons que Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Parce que c'est ce que Jésus nous a dit lui-même dans Jean 4:24. Maintenant, nous voyons dans Genèse 1:26 que Dieu l'a dit, 26 puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et au verset 27. Dieu accomplit ce qu'il a dit. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Puis, au chapitre 2, nous voyons Dieu recouvrir l'homme de poussière et lui donner une manifestation. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Avant d'aller plus loin, clarifions quelques points. Dieu parle et dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance, à qui s'adresse-t-il? Il dit, faisons. Et ensuite il dit notre image. Qui est-elle l'image de Dieu en premier lieu? Hébreux chapitre 1, un Dieu, qui autrefois, à diverses reprises et en diverses manières, a parlé à nos pères par les prophètes, de nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, lequel il a assigné l'héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, trois qui, étant le rayonnement de sa gloire et l'image exprimée de sa personne, l'image exprimée, ou le rayonnement ou la gravure de Dieu et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, lorsqu'il a par lui-même fait la purification de nos péchés, s'est assis à la main droite de la majesté dans les hauts lieux, quatre étant fait d'autant plus supérieur, aux anges, puisqu'il a par héritage obtenu un nom plus excellent que le leur. 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es Aïe mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, et encore, je lui serai un père, et il me sera un fils. Et la version amplifiée dit de lui, il est l'unique expression de la gloire de Dieu, l'être, lumière, le rayonnement du divin. Et il est l'empreinte parfaite et l'image même de la nature de Dieu. Hébreux chapitre 1 souligné 21 août 1957 souligné Jeffersonville, Indiana. USA paragraphe 129 maintenant. Voici ce qui est arrivé. Oh! Excusez-moi. Quand j'aborde ces choses, vraiment j'aime beaucoup ça. Voyez? Le logo. Et cette grande source, l'esprit qui n'avait ni commencement ni fin, ce grand esprit a commencé à prendre une forme, par une création, et le logo, qui en est sorti, était le Fils de Dieu. C'était la seule forme visible qu'avait l'esprit. Et c'était une théophanie, ce qui signifie un corps, et ce corps ressemblait à un homme. Puisque nous savons que la définition des jumeaux c'est deux enfants, ayant la même mère et nés en même temps, ce matin nous avons exposé pour vous un côté de l'équation, qui sont les enfants de Satan, et d'où vient leur lignée et comment Satan a utilisé le serpent, qui n'était pas un reptile, mais une bête si proche de l'homme, au point que sa semence sexuelle, son sperme, ses chromosomes, pouvait se mélanger avec l'œuf de la femme, et produire un enfant qu'un, qui est né de la femme, mais a été engendré par la bête dans le jardin. Nous avons donc examiné comment ce côté de l'équation des jumeaux a été introduit dans le monde. Dimanche prochain, nous examinerons l'autre côté de l'équation en étudiant la doctrine biblique des jumeaux et de la semence du Fils de Dieu. Nous verrons que la semence du Fils de Dieu a commencé dans Genèse 1, 3. Puis nous verrons comment Dieu a commencé à multiplier la semence du Fils de Dieu dans Genèse 1, 26. Où Dieu a créé l'homme ou l'humanité à la manière de son Fils premier-né, qui, comme l'a dit l'apôtre Paul, est le frère aîné d'une vaste famille de frères. Romains souligné 8.29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, avril 2023. traduit de l'anglais en français par Frère Serge Ngoy. Veuillez adresser toute correspondance en anglais ou en français, ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce sermois, briancocourec@yahoo.com.